Bonjour. Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation de participer à ce podcast. Et en fait, je vais d'abord commencer par te laisser te présenter. Tu t'appelles Sophie Hurel.
Exactement. Donc, je m'appelle Sophie Hurel. Je suis praticien hospitalier dans le service d'urologie et de transplantation rénale de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je suis également membre du CUROP, c'est la société de pelvipérinologie française qui est référencée par l'Association française des urologues. Et je m'occupe dans ce service plus spécifiquement de ce qu'on appelle la statique pelvienne, c'est-à-dire un petit peu les troubles, on va dire... comment on va dire ça ?
Il y a deux parties, si j'ai bien compris.
Voilà, exactement. Donc, l'incontinence urinaire et les prolapsus. Ce qu'on appelle les prolapsus, c'est en gros la descente d'organes. Donc, c'est un petit peu ma sous-spécialité dans le service, même si je fais aussi, bien sûr, un peu de cancérologie également.
D'accord. Donc, en fait, dans le cadre de cette spécialité, donc qu'il s'agisse d'incontinence urinaire ou de prolapsus, évidemment, tu ne vois que des femmes.
Exactement.
Donc, ta patientèle...
Je vois ma patientèle... Et si jamais il y a des hommes qui écoutent ce podcast, mais bon, je ne pense pas. Du coup, ils seront un peu déçus si jamais j'ai des patients. Mais non, on va dire, dans mes consultations, j'ai 80% de femmes, effectivement, qui viennent me voir. Je pense qu'il y a un petit peu le fait que les femmes, finalement, quand elles ont ce type de pathologie, elles préfèrent voir une femme. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles seront peut-être mieux comprises, pas jugées. En tout cas, ça les angoisse moins. Et puis, ça touche à l'intime, à l'examen clinique gynécologique. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes préfèrent voir des femmes. Après, pas forcément à raison, bien sûr, parce qu'un homme est tout à fait capable également de faire cette spécialité. À partir du moment où on est médecin et qu'on a une blouse, finalement, on n'est ni un homme ni une femme.
Ouais, mais en disant ça, sur ce côté un peu irrationnel de choisir une femme comme médecin quand il s'agit de parler d'incontinence, et ça, c'est, on l'avait évoqué déjà tout à l'heure, avant d'enregistrer, l'idée c'était vraiment que ça touchait à un tabou qui pouvait être...
Exactement, et donc c'est pour ça du coup que j'ai effectivement accepté de faire ce podcast, parce que il faut se battre contre le tabou, et j'ai l'impression... encore actuellement, même si ça commence vraiment à changer parce que les magazines féminins commencent à en parler, on voit des pubs à la télé pour des couches, ça devient quand même un petit peu moins tabou, mais ça reste finalement, quand ça touche à soi, ça reste un petit peu honteux parce que peut-être on a peur de sentir l'urine, ça reste quand même quelque chose qui j'ai l'impression fait de la peine aux femmes et leur fait honte en fait, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument en parler, parce que il y a des solutions qui s'adaptent à chaque patiente, des solutions qui sont pas forcément chirurgicales ou en tout cas pas forcément chirurgicales d'emblée. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi venir nous voir finalement assez rapidement avant d'avoir des fuites catastrophiques, parce que là c'est vrai que du coup les solutions seront forcément peut-être un peu plus chirurgicales. En tout cas, c'est pas parce qu'on va voir un chirurgien qu'on va se faire opérer, donc je pense qu'il faut vraiment venir voir, consulter rapidement, en parler à son médecin généraliste et se battre contre les tabous, parce qu'il n'y a pas de honte et tout le monde a le droit d'avoir la vie pelvienne qui lui correspond et dont il a envie.
Oui, parce que, alors, c'est super parce que tu as directement délivré le message qui te tenait à cœur. C'est-à-dire que toi et moi, on se connaît un peu dans la vie informelle, on va dire, perso. Et direct, tu avais très envie d'être interviewée parce que tu me disais, j'en ai, je veux que tout le monde le sache, quoi. Je veux
Exactement, exactement. Et en fait, c'est une spécialité qui est très intéressante par rapport à finalement la cancérologie. Hein, c'est intéressant, la cancérologie, on est d'accord. Mais finalement, en cancérologie, quand on traite un cancer, il y a ce qu'on appelle des guidelines, ce sont des recommandations où, en gros, on sait à peu près ce qu'on doit faire. En gros, à chaque situation, il existe une solution donnée qui est, on va dire, à situation égale, la même pour tout le monde. La statique pelvienne, c'est à mon sens beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, finalement, c'est pas la situation qui s'adapte à la patiente. Enfin, c'est justement la situation qui s'adapte à la patiente et il y a une solution personnalisée pour chaque patiente.
Alors attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je sais que tu vas aborder la question de la qualité de vie et des arbitrages à faire pour adapter la qualité de vie par rapport à la situation clinique de la patiente.
Exactement.
Avant ça, je voudrais, pardon de t'interrompre, qu'on retourne au début, c'est-à-dire l'incontinence urinaire et le prolapsus, c'est-à-dire la descente d'organes, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une première question que j'ai, c'est quelles sont les populations qui sont touchées par ce type de pathologie ?
Alors, la prévalence, elle est énorme. La prévalence, c'est-à-dire le taux d'incidence, donc c'est le nombre de personnes touchées dans la population générale. Elle est énorme. L'incontinence urinaire d'effort, donc c'est l'incontinence urinaire à la toux, au sport bien sûr, au jogging, au trampoline. Pour vous donner un exemple, l'incontinence urinaire au trampoline, c'est 80% des femmes. C'est-à-dire moi, bon, qui ai eu des enfants, si je fais du trampoline, pas probablement je peux avoir une petite fuite. Donc en fait, cette prévalence, elle est très sous-évaluée. Mais en gros, l'incontinence urinaire donc d'effort, qui est un problème dû au... le sphincter, en fait, qui est moins efficace, c'est l'incontinence urinaire plutôt de la femme jeune. Ça, c'est à peu près 15% de la population.
D'accord.
Féminine, c'est énorme.
Qui pourrait consulter parce que le trouble est suffisamment installé et gênant pour que ça devienne gênant, justement.
En fait, il faut qu'elle consulte quand c'est gênant.
D'accord, avant, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas, tous les 4 matins, on ne fait pas forcément du trampoline. C'est pas gênant.
Si on n'est pas championne de trampoline ou qu'on ne fait pas du cirque, non, c'est pas gênant. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment consulter quand on arrive à nous, ifstéter, qu'il faut consulter quand on est gêné. En revanche, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le périnée, c'est un muscle. Donc c'est un muscle extrêmement puissant, mais c'est aussi la clé de voûte, finalement, de notre corps. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le périnée comme une arche d'église. Et en fait, le périnée, quand on est debout, parce que, par exemple, les animaux qui sont à quatre pattes n'ont pas de prolapsus. On a un prolapsus parce qu'on marche sur deux jambes, en fait.
Attends, là, t'es passé de l'incontinence urinaire d'effort au prolapsus.
Ah, excuse-moi. Mais les deux sont aussi un petit peu liés. Mais en tout cas, parce que le périnée, c'est un muscle. Et donc, il faut, quand on commence à avoir des toutes petites fuites, par exemple, il faut faire de la rééducation. D'accord ? Cette rééducation, ça va renforcer le périnée. Donc, ça va éviter, bien sûr, les prolapsus et on va gagner en continence. Et cette rééducation, elle doit être faite chez toutes les patientes.
D'accord. Donc, dès qu'on imagine des fuites, alors pour celles qui ont eu des enfants, c'est assez facile parce qu'elles ont eu une rééducation périnéale. Donc, elles voient à peu près ce que c'est et elles peuvent être capables de refaire les mouvements toutes seules.
Voilà. Alors, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de patientes qui font leur rééducation, et notamment leur rééducation du postpartum, et qui après ne font plus rien. Mais c'est exactement le même principe que la salle de sport. C'est-à-dire que si vous faites du sport 2 mois avant l'été pour vous muscler, enlever votre cellulite, bah oui, vous allez être bien en maillot. Mais si en septembre vous arrêtez tout, bah ça va revenir. Bah l'incontinence urinaire, bah c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 15 à 20 séances de kiné, bah du coup, il faut continuer à faire les exercices à la maison. Sinon, ça va revenir.
D'accord.
Entendu. Donc, c'est un entretien. C'est-à-dire qu'on entretient ses abdos. Bah il faut aussi entretenir son périnée. Parce que son périnée, c'est ce qui nous supporte quand on marche.
D'accord. Et ensuite, il y a une dernière chose, c'est la question de l'incontinence due à l'hyperactivité vésicale, voilà. Qui est une toute autre problématique, en fait.
Exactement. Et en fait, il ne faut pas se tromper parce que les traitements En gros, il existe 2 grands types d'incontinence. Il y a l'incontinence urinaire d'effort, donc ça, on vient d'en parler, et l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale. Ça, c'est une incontinence urinaire qui apparaît en général beaucoup plus tardivement dans la vie en l'absence de troubles neurologiques. C'est l'incontinence urinaire plutôt de la femme ménopausée. Avec une prévalence aussi qui augmente avec l'âge, c'est-à-dire plus on est âgé, plus on en a. Mais c'est à peu près 25% des femmes à partir de 65 ans. Donc c'est énorme aussi. Et en gros, le...
Combien t'as dit, pardon ?
25%.
Oui, c'est beaucoup. Et ça... à quoi c'est dû ? Pourquoi ça touche les
Alors,
femmes ménopausées ?
Alors, c'est vraiment multifactoriel, en fait. C'est la première cause, en tout cas sur laquelle on peut lutter, c'est les troubles trophiques de la ménopause. C'est en fait à la ménopause, l'hydratation des muqueuses vaginales se modifie et donc on a une sécheresse vaginale et qui crée ensuite éventuellement des modifications du microbiote vaginal mais aussi vésical et intestinal. Et en fait, toutes ces petites modifications peuvent entraîner l'hyperactivité vésicale. Alors le syndrome d'hyperactivité vésicale, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle des urgenturies, c'est-à-dire quand on a envie d'uriner, il faut y aller tout de suite, et on n'a pas le temps de se retenir, avec une diminution du délai de sécurité. Polacurie, c'est-à-dire le fait d'aller uriner souvent dans la journée, plus ou moins fuite, parce qu'en fait, il y a des patientes qui ont des fuites dans ce syndrome, et d'autres qui n'en ont pas.
Et donc là-dessus, tu m'avais donné un exemple qui était très parlant, qui était de dire il y a des femmes, depuis que les cafés sont fermés, qui ne peuvent plus sortir de chez elles parce qu'elles ne peuvent plus envisager d'aller uriner quand elles ont besoin.
Exactement. J'ai plein de patientes qui effectivement ont eu un vrai problème de ça quand les cafés ont fermé à cause du Covid, parce qu'en fait, elles organisaient leur promenade en fonction des toilettes qu'elles connaissaient. Et en fait, du coup, la vie est organisée autour des toilettes. Et du coup, elle ne sortait plus parce qu'elle disait, mais en fait, si jamais j'ai un moment envie d'uriner dans la rue, pas possible. Et en plus, ce type d'incontinence, autant l'incontinence urinaire d'effort, c'est en général des petits volumes, c'est-à-dire c'est 3-4 gouttes, autant l'hyperactivité vésicale, quand on a une vraie fuite, ça peut être une miction complète. Donc en fait, on est trempé. Donc c'est un vrai problème. Et il faut bien, donc vous voyez, c'est déjà les symptômes sont vraiment différents de ces deux types d'incontinence et les traitements qu'on peut proposer sont diamétralement opposés.
Et j'imagine en plus que, comme souvent de ce que je comprends de l'exercice de la médecine, c'est jamais tout blanc tout noir et qu'il peut y avoir
exactement le problème et c'est ça.
Différentes incontinences voilà. Sur la même personne quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une incontinence urinaire d'effort sans autres symptômes, on parle d'incontinence urinaire d'effort pur. Le syndrome d'hyperactivité vésicale, je vous l'ai déjà expliqué. Mais il y a malheureusement énormément de femmes qui ont un petit peu des deux. Et donc là, c'est la zone d'ombre, c'est la difficulté. Moi, je pense comme pas mal d'urologues, justement, j'essaye de bien faire un interrogatoire policier. C'est-à-dire, c'est une vraie enquête. C'est une consultation qui doit durer longtemps. Parce qu'il faut déterminer chez votre patiente quel est le type d'incontinence qui la gêne le plus. Et moi, j'ai tendance à traiter ce type d'incontinence en premier et ensuite de voir ce qui reste.
D'accord. Donc là, on va retourner sur le sujet que tu avais abordé au début, qui est la question du traitement et de la chirurgie, en fait. C'est-à-dire à quel moment, toi, tu interviens chirurgicalement. Et quel est le... Alors, tu vas nous parler, j'imagine, des techniques avant la chirurgie que sont la kiné, par exemple. J'imagine que tu demandes aux patientes d'aller faire de la kiné.
Alors, c'est pire que ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu... Il y a une sorte de bashing sur les prothèses. Les prothèses qui traitent l'incontinence urinaire d'effort. On a tous vu l'envoyé spécial dessus. Avec actuellement des prothèses qui sont interdites en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Donc, il y a vraiment une vraie peur vis-à-vis de ça. De toute façon, toute patiente avant chirurgie doit avoir de la kiné. C'est médico-légal.
D'accord.
Donc, les kinés n'ont pas fini l'heure du travail.
Donc, c'est bien. Donc, on a une première phase. Et si, à l'issue de ces, j'imagine, 10 ou 20...
Ouais, c'est 15 à 20 séances, c'est le kiné qui lui-même en fait donne le nombre de séances.
D'accord. Donc à l'issue de ça, le kiné dit c'est
je suis au maximum de ce que j'ai pu récupérer.
Ouais.
De la contraction. Et là, deux solutions. Donc, c'est pareil, on s'adapte encore à la patiente. Soit elle vous dit, moi, ça va vraiment, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai fait la kiné. J'ai vraiment pris connaissance de mon périnée, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, en fait. Il y a des patientes, le périnée, elles ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, il y a même des patientes que j'examine.
D'ailleurs, tu sais quoi, peut-être que tu pourrais le redire. C'est quoi le périnée, en fait ?
Le périnée, je vous dis, c'est votre clé de voûte. Mais en fait, le périnée, ça comprend la vessie, le vagin, donc le col de l'utérus, l'utérus et le rectum. D'accord. Et donc, il y a des patientes, en fait, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leur périnée. Et il y a des patientes, par exemple, donc, quand je les examine, je leur fais ce qu'on appelle un testing périnéal, c'est-à-dire que du coup, je leur fais un toucher vaginal et je leur demande de contracter contre mon doigt. Ben, j'ai des patientes qui poussent, par exemple. Ça s'appelle une inversion de commande. Donc, non, mais en fait, tu rigoles.
C'est bien nommé.
Mais ouais. Tu rigoles, mais en fait, c'est ça, et ben, c'est pas mal de patientes, en fait. Donc, et même toi, là, si je te demande, je te dis, vas-y, contracte ton périnée, là.
Oui, Alors, je sais pas, mais je pense que je vais pas trop mal. Parce qu'en fait, moi, c'est une de mes obsessions. C'est-à-dire, quand je suis assise dans le métro.
Tu le fais. Voilà. Ben voilà, ben, c'est très bien. Ben, premièrement, tu vois, grâce à ça, tu n'auras jamais besoin de moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, faire du préventif sur le périnée. Et je pense que c'est pas assez dit. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de gynécologues obstétriciens qui, une fois qu'ils ont fait leur travail, finalement, n'insistent pas. Et surtout, c'est un travail, évidemment, qu'on fait pas à 3 jours du postpartum. Hein. C'est plutôt 6 mois après l'accouchement, 6 mois jusqu'à 1 an après l'accouchement. Donc,
en fait, ce que tu dis, j'ai une petite... Enfin, moi, je comprends pas très bien. C'est-à-dire que les risques liés au périnée, en fait, ça commence à partir du moment où tu as accouché.
Ça commence. L'accouchement et les traumatismes obstétricaux, c'est-à-dire soit les accouchements qui ont été difficiles avec forceps, épisiotomie, où du coup on est obligé de couper un petit peu le périnée, ou alors les accouchements très explosifs, c'est-à-dire les patientes qui ont accouché très très vite, et du coup bah, l'enfant est parti comme une bombe. Donc ça, effectivement, ça abîme.
D'accord. Mais une femme qui n'a pas eu d'enfant, à moins qu'elle soit sportive de haut niveau.
Exactement. Les patientes qui font par exemple du saut de haie, les jeunes qui font du saut de haie, elles peuvent avoir une incontinence urinaire d'effort.
D'accord.
Ou les patientes qui sont très obèses.
Ah, d'accord.
Parce que du coup, bah, forcément, elles ont leur périnée doit supporter du coup tout le surpoids en fait. Et ça, l'obésité, c'est aussi quelque chose sur lequel je voudrais bien. Il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. En fait, il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas jouer. L'obésité, qui est quand même un facteur aggravant, enfin qui s'aggrave en fait dans la population générale, c'est un vrai facteur d'aggravation d'incontinence urinaire d'effort. Et il faut quand même dire aux patientes que si on diminue de 10%, même pas son poids, on peut diminuer de 50% les fuites. Donc une patiente qui va être obèse, quand je dis obèse, c'est avec un BMI supérieur à 35.
C'est quoi BMI ?
Body mass index de masse corporelle.
D'accord.
Et donc supérieur à 35 qui définit l'obésité. Ces patientes-là, il faut vraiment essayer de les faire maigrir avant de les opérer parce que ça ira mieux sur leur incontinence, ça ira mieux sur tous leurs autres facteurs cardiovasculaires, articulaires, ça ira mieux sur beaucoup d'autres facteurs. Et en plus, on sait que l'obésité est un facteur de risque de complications chirurgicales et d'échec du traitement. Donc, il faut essayer de les faire maigrir avant de leur proposer une prise en charge chirurgicale.
D'accord. Alors, si je reviens un peu sur ce qui a été dit, en gros, toi, tu insistes beaucoup sur la question de la prévention, c'est-à-dire ne pas se pointer chez le médecin une fois que les troubles sont avérés, installés, présents depuis longtemps.
Si, j'insiste sur le fait que si les troubles sont avérés, il faut surtout aller voir son médecin.
Oui.
Mais...
si possible avant.
En fait, c'est horrible parce que du coup, je suis chirurgien, mais j'adore opérer. Mais en gros, la chirurgie, il y a, on va dire presque jamais, que des bénéfices. Donc, moi, ce que je dis même au chef de clinique, aux plus jeunes chirurgiens, c'est que moi, mes patientes, il faut qu'elles aient envie de se faire opérer. Il faut qu'elles sautent sur la table d'opération et qu'elles aient envie de se faire opérer. C'est-à-dire qu'elles soient vraiment gênées. Il ne faut pas se faire opérer si on est un tout petit peu gêné. Et ça, justement, ça permet que tout le monde soit content. Moi, je suis contente parce que du coup, j'ai rendu service à ma patiente qui me remercie en post-opératoire. Et les patientes sont contentes parce qu'elles en retirent un vrai bénéfice. C'est des chirurgies qu'il ne faut pas du tout faire en préventif.
Oui. Alors, d'accord.
C'est pour ça que du coup... s'il faut essayer de faire de la prévention avant.
Voilà, c'est ça. Pour éviter la chirurgie, l'idée, c'est de prendre en main le problème avant, je me suis mal exprimée, t'as raison, avant d'en arriver à un stade compliqué. C'est-à-dire que ça ne pourra pas se résorber tout seul. Ça, c'est sûr.
Donc, non. En fait, si on ne fait rien, ça s'aggravera.
D'accord.
Donc, pour l'hyperactivité, donc pour l'incontinence urinaire d'effort, c'est bien sûr la kiné, qui peut être entretenue après par des sondes endovaginales ou pas. Moi, je ne crois pas trop aux sondes endovaginales, mais juste, ça fait un matériel, en fait. C'est comme des haltères, vous voyez, de la salle de sport, en fait. C'est juste que, du coup, tu y penses.
Ouais. Non, puis en plus, je ne sais pas si tu as vu, il y a plein de...
différents modèles.
Ouais, qui sont sortis avec des trucs assez ludiques.
Exactement, et des formes aussi, parce qu'avant, on avait des grosses sondes de forme, on va dire... comme un obus, mais en fait on n'a pas du tout une forme de vagin comme un obus en fait, en plastique hyper rigide. Donc voilà, et maintenant il existe d'autres sondes siliconées, beaucoup plus ergonomiques en termes de vagin, et qui sont à mon avis beaucoup plus intéressantes.
D'accord, donc ça c'est bien. Ensuite il y a les rapports sexuels aussi, j'imagine que ça joue.
Alors, on peut tout à fait contracter son périnée pendant les rapports sexuels, ce qui peut faire la rééducation, mais du coup, il faut avoir un nombre de rapports suffisant dans la semaine pour faire sa rééducation.
D'accord, bon, j'arrêterai là sur la question. Ensuite, donc effectivement, l'incontinence urinaire d'effort, où tu as dit kiné et en fait stimuler son périnée le plus possible.
Exactement.
L'incontinence par hyperactivité.
Donc là, c'est la patiente, donc la période de la périménopause, qui à mon avis est une période un peu clé. Moi, je suis assez... Alors, il existe plein de nouveaux traitements qui sont plutôt faits par les gynécologues. Ils sont hyper bien. Les lasers endovaginales, les injections de cellules souches. Voilà. Donc, il y a d'excellents gynécologues qui font ça très bien. Et je pense que c'est aussi en train d'être pris en compte. D'ailleurs, il y a même un syndrome là, qui est sorti donc, chez les gynécologues, hein, pas chez les urologues, mais le syndrome de la femme périménopausique. C'est une vraie entité clinique, pour le moment un petit peu fourre-tout, mais probablement que ça va être dans les années à venir, du coup la définition va être un petit peu plus resserrée, on va dire. Mais ça, c'est vraiment le gynécologue qui s'occupe de ça.
Moi, c'est quoi dedans? Pardon, c'est quoi le syndrome de la femme ménopausique?
C'est justement les troubles urinaires, les bouffées de chaleur, les sécheresses, les douleurs. Voilà. Mais ça, je vous dis, c'est plutôt les gynécos qui s'occupent de ça, moi, beaucoup moins. Moi, je m'occupe vraiment que des troubles urinaires du syndrome d'hyperactivité vésicale qui, en général, arrivent à ce moment-là. Mais du coup, pour lutter contre ces problèmes vésicaux, en fait, il faut rapidement mettre... des hormones intravaginales, ou chez les patientes, parce qu'il y a quand même des contre-indications aux hormones intravaginales, notamment les patientes qui ont des cancers de l'endomètre ou des cancers du sein, donc il faut quand même être un petit peu prudent avec ça. Donc ça peut être aussi des crèmes à l'acide hyaluronique, des choses comme ça, mais en tout cas, dès qu'on a une sécheresse qui commence, il faut ne pas hésiter à en mettre. Et en plus, ça diminue du coup les douleurs pendant les rapports. Voilà. Parce que aussi, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a 50 ans, enfin 55 ans, et qu'on est en période de périménopause, que en fait, la vie sexuelle, elle est finie. Que en fait, maintenant, avec le vieillissement de la population, bah, finalement, on est en forme, en fait, quand on a 55 ans, on est encore joli, on est encore dynamique, on a encore envie, justement, d'avoir des rapports et d'en profiter, quoi. Donc, c'est pour ça, et c'est pas une fatalité.
D'accord.
Il faut se battre contre la fatalité.
D'accord. Donc l'hyperactivité vésicale, tu dis, la prévention, c'est quoi? C'est l'hydratation de la muqueuse vaginale.
Exactement. C'est aussi les probiotiques. Faire une petite cure de probiotiques. Alors, il y a plein de probiotiques en vente en pharmacie. Je n'ai pas d'action chez les probiotiques. Donc, il faut voir ça avec votre pharmacien. Mais faire une cure de probiotiques une fois tous les 6 mois, c'est bien. Ça restaure la flore vésicale, vaginale et intestinale. Et il y a maintenant des études scientifiques qui paraissent et qui sont très intéressantes sur les infections urinaires à répétition, qui est quand même un vrai problème aussi de la femme enceinte en période de périménopause. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en fait, en examinant le microbiote de ces femmes, eh ben, on avait une modification du microbiote intravésical lors de cette période de la vie. Donc, il faut lutter contre ça, encore une fois, et prendre un petit peu de probiotiques. tout en bien sûr faisant les règles hygiodiététiques, on va dire habituelles des infections urinaires à répétition, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour uriner, bien vider sa vessie, aller uriner toutes les 4 heures, on va dire, ne pas rester toute la journée sans uriner. Et donc pour ce fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Parce que si vous prenez 2 cafés, un le matin, et vous prenez un verre d'eau le soir, bah forcément vous n'allez pas uriner de la journée, et là vous pouvez favoriser les infections urinaires.
D'accord. Est-ce que sur la question des méthodes de prévention, sur les pathologies que toi tu vas traiter chirurgicalement, est-ce qu'on a fait le tour ?
Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas trop parlé du prolapsus, mais le prolapsus, c'est la descente d'organes qui peut intéresser un des 3 étages du périnée, 2 ou 3. Donc soit la vessie, ça s'appelle la cystocèle, c'est le prolapsus vésical. En gros, c'est la bascule de la vessie dans la face antérieure du vagin. Soit un prolapsus qui peut intéresser le col et l'utérus, c'est l'hystérocèle. Donc du coup, c'est l'utérus en fait qui ou la colpocèle qui sort en fait tout droit au niveau du vagin. Ou soit la rectocèle. En gros, c'est le rectum, c'est la bascule du rectum dans la face postérieure du vagin qui crée une boule. Donc nous, en gros, notre travail, une fois que le prolapsus est sorti et gênant pour la patiente, ça va être de voir quel étage est concerné par cette descente et de proposer un traitement qui peut être soit un traitement chirurgical par ce qu'on appelle voie haute, c'est-à-dire par voie abdominale, ou un traitement par voie vaginale, c'est-à-dire par les voies naturelles, sachant qu'actuellement, il est interdit de mettre des prothèses par voie vaginale. Donc ce sera un traitement par ce qu'on appelle tissu autologue, donc en général qui tient un petit peu moins bien dans le temps. Ou enfin un traitement qui n'est pas chirurgical, et je pense que c'est important d'en parler ici aussi, c'est ce qu'on appelle le PCR. Donc le PCR, c'est un anneau de caoutchouc qu'on se met au niveau du vagin. Enfin, ça peut être un anneau ou un cube, enfin, il existe différentes formes, et qui permet de remonter le prolapsus et donc de ne pas se faire opérer.
Et c'est un anneau que tu mets une fois, que toi tu vas installer alors, chez la patiente, et après elle le garde.
Alors elle peut le garder jusqu'à 3 mois, mais il faut le changer tous les 3 mois.
Et c'est un médecin qui change l'anneau, ou c'est elle ?
Alors, ceux qui sont ce qu'on appelle les PCR anneaux, c'est plutôt un médecin. Après, il existe un autre type de PCR qui est une forme de cube. Et là, ça doit être enlevé tous les soirs. Et là, c'est plutôt la patiente, du coup, qui le fait.
D'accord.
Si elle y arrive. Mais le problème, c'est que du coup, ça s'adresse à des personnes un peu âgées, en général. Enfin, en tout cas, trop âgées pour se faire opérer. Et du coup, qui ne sont pas forcément assez dextres, c'est-à-dire assez habiles, en fait, pour se le mettre et se l'enlever toute seule.
D'accord, donc en fait cet anneau, il est en cas d'impossibilité d'opération ?
Pas forcément. Il est en cas d'impossibilité d'opération, c'est sûr, ou en cas de patiente qui n'a pas envie de se faire opérer.
Alors ça, on va en parler, très bonne transition. Si on a terminé toutes les problématiques de prévention des pathologies, on va évoquer la question de la chirurgie, donc le moment où toi t'interviens en fait, une fois que toutes ces solutions ont été ou pas utilisées, à partir du moment où le chirurgien entre en scène. La question c'est, et tu me l'as dit à plusieurs reprises, c'était, alors je vais le redire avec mes mots, parce que toi tu le dis beaucoup mieux que moi, mais c'est dans le cas de l'exercice de ta chirurgie, l'opération n'est pas force, il n'y a pas d'obligation d'opérer d'une façon précise. Donc en fait, c'est des arbitrages qui vont être faits.
Il n'y a pas d'obligation d'opérer d'une façon précise. Actuellement, maintenant, pour toutes les interventions concernant l'incontinence ou la statique pelvienne, donc les prolapsus, on a l'obligation maintenant de créer ce qu'on appelle une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, où on discute, où il y a des urologues, des gynécologues, souvent des médecins rééducateurs, des gens qui font ce qu'on appelle les bilans urodynamiques. En général, avant de vous opérer, on peut être amené à mettre des capteurs dans la vessie pour mesurer les pressions intravésicales et les pressions du sphincter. Des gastros aussi, qui s'occupent du côté procto et du côté rectocèle et constipation, enfin en tout cas signes cliniques qui peuvent aller avec les rectocèles. Et donc on discute un petit peu des patientes, des dossiers pour établir la meilleure stratégie de prise en charge en fonction tout d'abord de l'attente de la patiente. Et ça, c'est encore une fois, c'est le mot-clé. C'est-à-dire, c'est l'attente de la patiente qui va, on va dire,
c'est-à-dire
être le fil.
C'est-à-dire l'attente de la patiente.
Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Est-ce que, si vous voulez, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai une patiente de 85 ans, donc un petit peu âgée, un peu d'antécédents, mais pas un petit peu. Toute mignonne, pimpante, enfin vraiment mignonnette, quoi. Active, et en fait, qui avait des fuites urinaires. Qui avait un... En tout cas, il n'y avait pas de solution, on va dire, simple à lui proposer. On ne pouvait pas lui mettre de bandelette. Elle avait une insuffisance sphinctérienne, donc une incontinence urinaire d'effort. Mais comme elle était très âgée, son vagin était très fixé. Enfin, en gros, on ne pouvait pas lui mettre les fameuses bandelettes, les fameuses prothèses, qui auraient été une solution simple. Mais chez elle, ce n'était pas possible. Elle était trop âgée pour réaliser une intervention qui s'appelle la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel, qui est une intervention lourde, mais très efficace, mais quand même avec un taux de complication d'environ 15 à 20%. Donc c'est vrai que c'est une solution que je ne voulais pas lui proposer. C'est une patiente qui mettait 3 grosses couches par jour. Donc elle avait quand même une grosse incontinence. Et du coup, je lui ai proposé une injection de macroplastique, qui est une substance dans le sphincter. L'idée, c'était de renforcer son sphincter. On sait qu'avec ce type de technique, on n'est pas complètement efficace, mais... Eh ben, on est quand même passé de 3 grosses couches à 1 par jour. Et donc, elle me dit, bah voilà, là, tu vois, je peux retourner au théâtre, je peux aller au cinéma, je peux emmener mes petits-enfants manger une glace. Et en fait, c'est ce qu'elle voulait. Et il faut s'adapter à la demande de la patiente. Si j'ai notamment, je pense à une patiente qui fait un travail où, qui est jeune, qui fait un travail où elle est tout le temps debout et en mouvement. Elle a une incontinence urinaire d'effort aussi également. La bandelette probablement ne suffira pas chez elle, et elle a déjà eu une bandelette avec des complications de la bandelette, donc on ne pourra pas lui en remettre une. Et je pense que cette patiente-là, on lui proposera plutôt un sphincter
artificiel.
Exactement. Donc voilà. Donc,
là,
donc
en fait, une opération très lourde, mais qu'elle pourrait supporter parce qu'elle est
exactement, et elle sera sèche avec cette intervention. Donc en fait, ça dépend la situation, le praticien, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la statique pelvienne, c'est que le praticien doit s'adapter à la situation, donc et aux attentes de la patiente.
D'accord.
Donc et c'est pareil, une patiente avec un prolapsus, donc une descente d'organes,
ouais,
mais qui n'est pas gênée par sa descente d'organes, eh ben je ne l'opérerai pas.
Ça existe?
Mais bien sûr, j'ai des patients qui viennent me voir, je viens voir parce que j'ai un prolapsus. Du coup, c'est mon gynécologue ou mon médecin généraliste qui m'a dit que j'avais un prolapsus, ou même parfois sur un examen d'imagerie, une échographie. Tu vois, j'ai une descente de la vessie. J'ai dit, ok, mais ça vous gêne ou pas? Non. Bah ok. Bah vous revenez me voir si jamais ça vous gêne, mais si ça vous gêne pas, on fait rien.
Je savais pas que c'était possible que ça gêne pas.
Ça dépend du degré. C'est-à-dire que c'est sûr que si ça sort énormément, ça gêne. Mais si ça sort un petit peu, il faut se méfier de la surévaluation, on va dire, des prolapsus par les examens d'imagerie. Et à contrario, une patiente qui n'a pas un prolapsus très extériorisé, parce qu'il faut savoir que l'examen clinique des prolapsus se modifie pendant la journée et en fonction de ce qu'on fait.
Ah, ouais.
Donc vous n'aurez pas forcément le même examen clinique si vous examinez un prolapsus à 8h du matin qu'un prolapsus à 18h après une journée à courir partout, être allé faire les courses, être allé chercher les enfants à l'école et tout ça. Donc une patiente qui vous dit, une patiente, je l'examine, je dis bof, franchement, ça ne sort pas trop, enfin, on va peut-être attendre un peu avant de vous opérer. Et elle me dit, oui, mais docteur, moi je suis hyper gênée, j'ai du mal à uriner. Et puis le soir, quand je prends ma douche, j'ai une boue qui sort. Bon, bah celle-là, j'aurais quand même tendance à la croire et lui proposer de la changer. Alors que moi, sur mon examen clinique, ça m'alarmait pas. Je me disais pas, waouh, c'est un énorme prolapsus.
D'accord. Donc la parole du patient et le pacte que tu vas, enfin de la patiente en l'occurrence, et le pacte que tu vas passer avec elle
est primordial.
Et au cœur de ta pratique derrière, en fait.
Exactement.
C'est ça qui va tout définir.
C'est ça qui va tout définir. Et c'est pour ça que c'est des consultations un peu longues. C'est pour ça que je suis en retard. C'est pour ça que voilà. Mais c'est important de. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais.
Alors, moi j'ai une dernière question, Sophie. C'est en urologie, on l'a bien compris, il y a 1000 façons d'exercer l'urologie avec différentes spécialités.
Ouais, c'est ça qui est bien de sa spécialité, en fait, c'est que c'est une spécialité médico-chirurgicale. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on fait tous nos examens complémentaires. Donc ça, c'est intéressant, les fibroscopies vésicales, c'est-à-dire les petites caméras qu'on met dans la vessie, tout ça. En fait, c'est nous qui faisons nos examens complémentaires, qui les prescrivons et qui les faisons. Donc en fait, on gère entre guillemets la chaîne de A à Z. Donc, c'est un peu le travail d'artisanat, mais c'est très intéressant et on peut, voilà, il y a aussi toute une part médicale de notre travail. C'est en fait le rationnel consultation et patient qu'on va opérer est finalement assez maigre. On n'opère pas beaucoup de patients par rapport au nombre de patients qu'on voit en consultation.
D'accord. Ah, c'est pas mal déjà.
Ben, ça dépend. J'adore opérer, donc mais en tout cas, voilà, c'est une vraie spécialité médico-chirurgicale, au même titre que l'ORL, par exemple.
Voilà. Et toi, tu as choisi de te spécialiser dans une sur un de, parmi tous les pans des questions en urologie, sur un truc très spécifique qui est relatif, qui est à la frontière avec la gynéco.
Exactement. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, moi, quand j'étais étudiante, je voulais être gynécologue. Donc, j'avais fait 6 mois de stage en gynéco, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais un petit tropisme déjà pour les pathologies des femmes. Mais j'aimais la chirurgie, je voulais être chirurgien. Et en fait, dans l'internat de gynéco, il y a pas mal de semestres qu'on appelle en obstétrique, où du coup on fait des accouchements. Et alors pour le coup, c'était pas du tout un truc qui me plaisait, c'était un truc qui m'angoissait même. Donc j'ai pas choisi la gynéco. Et en plus, on m'a dit, enfin à l'époque j'avais demandé des conseils, en fait on m'a dit, bah si tu veux faire de la chirurgie, il vaut mieux faire un internat de chirurgie, parce que du coup on fait 5 ans où on fait que de la chirurgie, donc pour avoir une formation on va dire optimale. Raison pour laquelle j'ai choisi l'urologie. Et ensuite en urologie, je me suis spécialisée en statique pelvienne finalement assez tôt, parce que j'ai fait ma thèse de médecine, par exemple, sur la toxine botulique dans la vessie. Donc, la même chose que pour les rides, mais qu'on peut faire directement dans la vessie pour traiter l'hyperactivité vésicale, justement. Mais ça, c'est plutôt des rencontres, en fait. C'est parce qu'à l'époque, quand je suis devenue interne, il y avait très peu de filles urologues. On est quand même encore 3% de femmes urologues. Ouais, c'est vraiment une spécialité, finalement, encore masculine, même si c'est vraiment en train de changer. En gros, on disait que l'urologue c'était un peu le gynécologue de l'homme. Bah non, en fait, l'urologue aussi c'est vraiment un praticien pour les femmes. Et en fait, à l'époque, j'étais dans un service où il y avait une femme qui était PH, qui s'appelait Sophie d'ailleurs, ouais, praticien hospitalier, qui s'appelait Sophie. Et qui avait 3 enfants, parce qu'à l'époque, je me disais, mais comment, ça a l'air bizarre, ça va être compliqué d'avoir une vie de famille, de faire chirurgie, parce que bah, c'est sûr, c'est des métiers qui sont prenants et on y passe nos nuits, nos journées, on sait quand on commence, c'est pas quand est-ce qu'on termine. Je me disais, voilà, et donc je la voyais, elle, et qui avait ses 3 enfants, qui c'était pas de tout repos, hein, mais finalement qui galéraient, mais en fait, comme on galère toutes. Et du coup, je m'étais dit, ah, mais c'est possible, en fait, c'est possible. Et je me suis un peu, je pense, identifiée à elle. Et donc, du coup, après, quand on s'intéresse à un truc, bah, forcément, c'est quand on devient un peu... c'est comme tout, hein. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à un domaine, du coup, ça continue à être intéressant et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, on en est arrivé.
Donc, en fait, de gynéco, tu as finalement choisi une autre spécialité, mais toujours pour la santé des femmes.
Exactement. Exactement.
C'est
beau. Bah ouais, parce que je trouve que c'est pas facile... d'être une femme en 2021. Alors il y a peut-être des hommes qui vont nous écouter, qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais je trouve qu'on fait beaucoup de choses, en fait. On travaille, on s'occupe de nos enfants, ou en tout cas on s'inquiète beaucoup pour eux. On doit aussi être attentionné pour tout le monde. Voilà, donc je trouve ça déjà pas facile. Donc en fait, en gros, moi, si je peux un petit peu faciliter la vie des femmes et qu'elles puissent reprendre une vie normale, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on vient me voir après et qu'on me dit « Docteur, vous m'avez changé la vie ». Et c'est une phrase qu'on me dit quand même assez régulièrement, enfin, pas souvent, mais assez régulièrement. Et c'est pour ça que je fais ce boulot. Et voilà, il faut que ça continue.
Merci beaucoup.
Bah écoute, merci à toi.
Et bonne journée.